Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous. L'histoire est rythmée par la musique de tous les temps. Ou bien c'est la musique qui donne le tempo de l'histoire. C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Nous allons parcourir les époques en compagnie de personnages historiques. Eux aussi, leurs vies furent rythmées par la musique de leur époque. Aujourd'hui, nous allons nous transporter en 1815. Nous évoquerons Rousseau et ses interrogations. C'est notre portrait du jour. Et puis, nous ferons un saut dans le futur, au temps de l'apartheid, en 1990. 1815, 1er mars, Napoléon débarque à Golfe-Juan avec 500 hommes. C'est le début des 100 jours. Il rallie les troupes envoyées pour l'arrêter et soulève l'enthousiasme des populations et le ralliement des troupes lors de son passage à travers la France. L'affrai, Grenoble le 7 mars, Lyon le 10 mars, Auxerre ou Ney se rallient le 17 mars. Le 4 mars, le corps du maréchal de camp Quesnel est retrouvé flottant sur la Seine entre Boulogne et Saint-Cloud. Cette mort mystérieuse cause une grande sensation dans Paris. Le général Cambronne s'empare du pont et de la citadelle de Sisteron. Louis XVIII apprend le débarquement de Napoléon en Provence le 5 mars 1815. Le 6 mars, une ordonnance royale contient des mesures de sûreté générale. Napoléon Bonaparte et ses complices sont déclarés traîtres et rebelles. Par ailleurs, Heinrich Holbert découvre une comète près de Percé. Le 7 mars 1815, Louis XVIII réunit les ambassadeurs étrangers aux Tuileries dans le but de les rassurer. Le 5e régiment d'infanterie de ligne étant devant Grenoble, Napoléon est seul face aux fusils et, malgré cela, il convainc la troupe de se rallier à lui. Le lendemain, c'est le 7e régiment d'infanterie de ligne qui se joint à sa troupe. Bien que déclaré traître et rebelle, Napoléon s'octroie l'autorisation de publier un décret qui supprime la cocarde blanche et rétablit le drapeau tricolore. Le 9 mars, Napoléon est à Lyon.
Soldats, prêts à faire feu ! Soldats, l'arme au pied. Maréchal Ney. Soldats du 5e de ligne. Je suis votre empereur. Soldats. S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur. Mais voilà.
Garde ton sabre, imbécile, sinon avec quoi défendras-tu ton empereur ?
C'est Christian Clavier qui joue le rôle de Napoléon dans cette séquence.
Le 19e siècle a été l'une des périodes les plus mouvementées de l'histoire de France. Les différents régimes se sont enchaînés. Consulat, empire, monarchie, république. Du 20 mars au 22 juin 1815, le règne de Louis XVIII a connu une parenthèse que l'histoire a retenue sous le nom de « 100 jours ». Au cours de ces 3 mois, l'empereur déchu a tenté de rétablir son autorité. Spoiler, ce fut peine perdue. Un peu de contexte d'abord. En avril 1814, Napoléon se rend à l'évidence. La France, longtemps victorieuse, connaît de nombreux revers. Elle a même été envahie sur son propre territoire. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Talleyrand quoi, sent le vent tourner. L'ancien ministre de Napoléon établit des relations avec le Bourbon Louis XVIII, frère de Louis XVI. C'est lui qui était pressenti pour prendre le pouvoir. D'ailleurs, Talleyrand était là pour recevoir les alliés quand ils sont arrivés à Paris, et il n'a pas manqué de plaider sa cause. Talleyrand obtient du Sénat la proclamation de la déchéance de Napoléon et la présidence d'un gouvernement provisoire. L'empereur, quant à lui, se résout à l'exil sur l'île d'Elbe. Louis XVIII, qui s'était réfugié en Angleterre, sait bien qu'il ne sera plus possible de revenir à l'ancien régime. La Révolution française, puis l'Empire, sont passés par là. Le Bourbon fait son entrée à Paris le 3 mai et promet de mettre en place une monarchie constitutionnelle. Commence alors ce qu'on appelle la première Restauration. Précisons que le retour d'un monarque est perçu par beaucoup de Français comme un retour en arrière. Le drapeau tricolore est abandonné au profit du drapeau blanc. L'étiquette royale est rétablie. Les émigrés contre-révolutionnaires sont invités à revenir en France. La religion catholique redevient la religion d'État. Autant de choses qui rendent le nouveau régime impopulaire. Or, Napoléon, sur son île, est tenu au courant de ce que pense l'opinion. Il caresse l'espoir d'un grand retour, d'autant plus que les 2 millions de revenus annuels qui lui étaient dus ne lui ont pas été versés. Son épouse et leur fils ne l'ont jamais rejoint, et rien ne le retient sur l'île d'Elbe. Les bonapartistes ont fait de la violette leur signe de ralliement. Ils appellent discrètement leur héros « Père la Violette », en référence à une phrase qu'il avait faite avant son exil. Il reviendrait avec les violettes, comprenez, avant le printemps. Et Napoléon respectera bien sa promesse. Napoléon quitte en secret Portoferraio, la ville principale de l'île d'Elbe, pour rejoindre la France à bord de l'Inconstant. Il accoste à Valoris, dans le golfe Juan, près de Cannes. Il dispose d'environ 1 millier de soldats à ses côtés. Voici ce qu'il écrit dans une déclaration adressée à l'armée. « L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. » Plutôt stylé. C'est pour cette raison qu'on appelle l'épisode de son périple entre la Côte d'Azur et Paris « Le vol de l'aigle ». Son premier objectif est d'atteindre Lyon, en passant par Grenoble. La vallée du Rhône fourmille de royalistes, et Bonaparte veut se frayer un chemin dans la montagne. Un peu plus de 300 km sont effectués en 7 jours. Napoléon suscite l'enthousiasme sur son passage, celui de ses partisans bien sûr, mais aussi celui des paysans. À la fraie au sud de Grenoble, des troupes royales qui étaient venues mettre un terme à son périple se rallient à l'empereur. Napoléon s'avance vers elles, met sa poitrine en avant et déclare « Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voilà. Vive l'empereur !» et leur réponse. À Grenoble, Napoléon est encore acclamé. Les habitants ont même détruit la porte de Bonne afin qu'il puisse entrer dans la ville. Lyon lui réserve peu ou prou le même accueil. Dépêché dans la ville par Louis XVIII, le comte d'Artois, qui deviendra plus tard le roi Charles X, et le maréchal Macdonald ont déjà plié bagage. Louis XVIII fonde son dernier espoir sur Ney, rallié après avoir été un brillant maréchal de l'Empire. Ses troupes attendent Bonaparte. Le maréchal Ney a déclaré qu'il allait accomplir la capture de Napoléon par ces mots. « Je ramènerai l'usurpateur dans une cage de fer. » Pourtant, lorsque les deux hommes se retrouvent à Auxerre, Ney se confond en excuses et lui ouvre grand les bras. Napoléon lui aurait répondu « Vous n'avez pas besoin d'excuses. Votre excuse, comme la mienne, est dans les événements qui ont été plus forts que les hommes. » Louis XVIII a fui Paris dans la soirée, direction la Belgique.
El König, en français le roi des aulnes, est un lied composé par le musicien autrichien Franz Schubert sur le poème de Goethe portant ce titre. Le personnage de L'Erlkönig, très souvent évoqué dans la littérature allemande, y est décrit comme une créature maléfique qui hante les forêts et entraîne les voyageurs vers la mort. Erlkönig fut composé un après-midi d'automne de 1815 par Schubert, alors âgé de 18 ans. Le poème est mis en musique par Goethe. C'est seulement en 1821, soit 6 ans plus tard, que Schubert trouva un éditeur pour publier son Lied. Dans l'intervalle, il avait apporté divers remaniements à la partition. Chanté pour la première fois en public par le baryton Johann Michael Vogel le 7 mars 1821, l'œuvre reçut un accueil triomphal. Les thèmes développés dans le poème sont typiquement romantiques. La mort, la nuit, le fantastique, la peur, la forêt. La musique s'en ressent, en tonalité de sol mineur, sérieuse, profonde, tragique. Le caractère de la musique change en fonction des personnages mis en scène. Le narrateur, le père, l'enfant, le roi des aulnes.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et décède le 2 juillet 1778 à Ermenonville. C'était un écrivain, philosophe, musicien. Orphelin de mère très jeune, éduqué dans un milieu populaire, il mène une vie marquée par l'errance. Si ses ouvrages l'ont rendu célèbre dans toute l'Europe, ils lui valent aussi des conflits avec l'Église catholique et la République de Genève, ce qui l'oblige à souvent changer de résidence et alimente un sentiment de persécution de plus en plus aigu. Passionné par la musique, Rousseau tente d'abord de se faire connaître en ce domaine. Il rencontre un réel succès avec Le Devin du Village en 1752, premier opéra comique français. Son ami Diderot lui confie la responsabilité de la section de l'encyclopédie consacrée à la musique. Dès lors associé par le public au mouvement philosophique des Lumières, il s'en démarque progressivement en affirmant l'importance du sentiment et de la sensibilité par opposition à la froide raison voltairienne. Loin de partager le matérialisme athée de Diderot, il affirme l'existence de Dieu en se fondant sur le sentiment et l'émotion en face du mystère de la nature, le sens inné du bien et du mal et l'aspiration à une transcendance. Il expose son credo dans la profession de foi du vicaire savoyard. La symphonie numéro 9 en do majeur est une symphonie du compositeur autrichien Joseph Haydn, composée en 1762. Thank you.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Année 1990. Bien que catalogué comme conservateur, De Klerk voulait changer l'image du parti et du pays en Afrique du Sud. Proche des milieux économiques, il savait que les sanctions internationales étaient de moins en moins supportables pour le pays. Frédéric De Klerk avait pris conscience que le poids démographique des Noirs était trop important et que les Blancs étaient devenus trop minoritaires, 13%, pour pouvoir le diriger efficacement. Il avait compris enfin que l'apartheid avait atteint ses limites et avait échoué à empêcher les Noirs de devenir partout majoritaires en République sud-africaine blanche, à l'exception du Cap occidental, où les Métis demeuraient les plus nombreux, et à Pretoria, où les Afrikaners dominaient encore significativement. Durant l'été 1989, Peter Botha est contraint de démissionner par les membres de son cabinet qui voulaient placer Frédéric De Klerk le plus rapidement possible à la présidence pour sortir d'une situation bloquée et impulser un nouveau souffle au pays. Dès sa nomination à la présidence de la République, De Klerk s'entoure d'une équipe favorable à des réformes fondamentales. S'il maintenait quelques piliers de l'apartheid, comme Magnus Malan à la défense et Adrian Volk à la sécurité intérieure, c'était pour donner des gages à l'électorat conservateur. Il maintenait l'inamovible Pik Botha aux affaires étrangères pour rassurer les libéraux ainsi que le pragmatique Kobi Kotze à la justice et Baran du Plessis aux finances. La nouveauté consiste surtout en la montée en puissance au sein du gouvernement et du parti des nationalistes réformistes comme Léon Wessel, David de Villiers ou Rolf Meyer. Les élections générales anticipées de septembre 89 se révélèrent mauvaises pour le Parti national qui perdit une trentaine de sièges au profit du Parti conservateur. 39 sièges pour 33% des voix pour le Parti conservateur et du nouveau Parti démocratique, issu d'une fusion entre les partis progressistes et libéraux, le Parti démocratique obtint 33 sièges et 21% des voix. Le Parti national gardait néanmoins une petite majorité, mais il n'était plus le premier parti des électeurs africanaires qui lui avaient préféré le Parti conservateur pour 45% d'entre eux et seulement 7,5% des voix anglophones. Dès l'automne 89, De Klerk faisait supprimer les dernières lois de l'apartheid malgré l'opposition des mairies conservatrices. La libération de Nelson Mandela en février 90 et les pourparlers entre le gouvernement et les ex-partis interdits déchaînent les passions au sein de la communauté blanche.
Décidé et volontaire. Pour eux, fidèles de l'Église noire, en revanche, les progrès enregistrés ne changent rien, le combat continue.
As long as our children die, we shall resist. As long as our children do not have a decent future, we shall resist. As long as our mothers have to cry deep into the night, we shall resist. As long as justice stumbles on the street and cannot find a place in the courts of law, we shall resist. And we shall continue to resist you until the new South Africa is born. And if you cannot live with that, you are...
Un sermon anti-apartheid interrompu quelques minutes après son début. La presse sera menacée, la salle évacuée.
Dernier volet de ce voyage en Afrique du Sud, la disparition de ce que l'on appelle l'apartheid mesquin, c'est-à-dire les mesures vexatoires imposées au quotidien à la communauté noire. La décision a été prise par le président De Klerk lui-même, un premier pas vers le démantèlement de l'apartheid, un pas timide pour les uns, une capitulation pour les autres.
Début décembre, la canicule australe, et 15 jours plus tôt, l'aspect le plus rétrograde de l'apartheid mourait sur ses plages. Et voilà que du coup, cette scène, certes, touchante et charmante, mais malgré tout banale pour nombre de peuples de la Terre, prenait des allures de révolution. Des enfants de couleurs différentes, ensemble, ici. Inimaginable, quelques semaines plus tôt. Cette plage était réservée aux Blancs, interdite aux Noirs.
Nothing Compares to You est une chanson écrite en 1984 par Prince. Elle a été rendue célèbre par la reprise en 1990 de Sinéad O'Connor. Est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. À bientôt.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.